Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 3 décembre 2014, Christophe Rollin au micro, c'est l'émission 48, 49, 50, je ne sais pas encore, de toute façon quand on aime on ne compte pas, Gérald est présent ainsi qu'une partie de l'équipe de l'orchestre d'Homme Orchestre venue nous parler du prodigieux, magnifique, incroyable, épatant, époustouflant, déroutant, étonnant, déglingué spectacle qu'il donne actuellement le cabaret Brise-Jour au théâtre de la Croix-Rousse. C'est encore ce mercredi soir et demain soir jeudi à 20h. C'est vraiment génial, c'est de la musique à voir. Bon, pour aujourd'hui, de la musique à écouter en notre compagnie. Donc Gabriel est présente ainsi que Simon. Pour l'instant, personne ne parle, il n'y a que moi qui suis au micro, je le dis tous les mercredis. Nous allons commencer tout de suite en musique avec Comment on fait son lit, on se couche, c'est ça, extrait de leur spectacle. Ce n'est pas la version qui est la leur, c'est un enregistrement dont Gérald nous dira éventuellement de quoi il s'agit. Et puis ensuite, comme d'habitude, l'émission se déroulera avec une interview en première partie de nos intervenants. Et puis ensuite, plus précisément, quel est ce spectacle qu'ils donnent au théâtre de la Croix-Rousse. Émission sur Radio Canu, vous pouvez nous écouter Radio Canu. .org sur internet, ou bien si vous êtes à Lyon, c'est peut-être plus simple de mettre le 102.2 de la bande FM. Enchaîner, mais on va en rester là, Gérald. Donc, j'ai commencé très vite, je n'ai même pas annoncé l'heure. Il est 14h07, on a pris un peu de retard, on s'en fiche totalement, Gérald. Qu'est-ce que nous écoutions?
Alors nous écoutions la version originale d'un titre extrait de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, Den wie man sich bettet,
quand
on fait son lit, on se couche.
Oui, mais le titre Mahagoni, c'est Grandeur et Décadence, c'est ça, je crois.
Voilà, de la ville de Mahagoni, donc Kurt Weill, Brecht. Et dans une version ancienne de 1930 de Ultraphone Telefunken, j'ai les références du disque. Allez. Voilà, j'ai pas la chanteuse là. Si, Lotolenia.
C'est
Lotolenia. Lotolenia and the Three Admirals.
Gabriel est d'une grande science, d'une grande.
Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que c'est un vieil enregistrement et qu'il se trouve que nos invités et ce superbe cabaret Brice Jour, orchestre d'homme orchestre, l'interprètent dans le cadre de son anthologie ou son éventail de chansons de Brecht dont ils vont pouvoir parler.
C'est donc Simon qui va avoir la parole ainsi que Gabriel. Peut-être pourrions-nous être galants ou je ne sais même pas, parce que au Québec d'ailleurs la question de la galanterie, je crois qu'elle pose un peu problème, puisque c'est non, il y a pas forcément à avoir. Mais tout de même, Gabriel, puisqu'elle a commencé à parler, donc laissons-lui la parole. Simon, je vous en prie, vous indiquerez ensuite vous aussi qui vous êtes. Mais Gabriel, vous qui avez donc une incroyable connaissance, vous saviez que c'était Lotolenia qui interprétait.
Oui, on le savait parce que ça a été un des enregistrements qu'on a beaucoup écouté pour faire le spectacle. Donc je suis tout à fait collable par rapport à toute cette science autour de Courtevel. On en sait un peu, mais on ne sait pas tout. Mais par hasard, je connaissais très bien cet enregistrement-là. Donc voilà, moi je suis Gabrielle Boutillier. Je suis une des membres de l'Orchestre d'Hommes Orchestres, un collectif de Québec qui essaie de comment je dirais ça, faire un art qui se transporte à travers les différentes disciplines artistiques pour faire voir la musique d'une autre manière. Voilà.
C'est très, très bien comme mot introductif. Peut-être Simon, vous aussi quelques mots. Et puis ensuite, j'insiste, moi j'aimerais davantage savoir qui est Gabriel et puis qui est Simon. Vous aussi, Simon, pourriez-vous dire deux mots?
Oui, ben donc Simon, c'est un premier mot.
Il y en a plusieurs.
Comme,
hein.
comme second mot.
Voilà, il y en a plusieurs des Simons, je crois, dans cette.
Oui, on
dans
est deux Simons, oui. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est aussi membre de l'orchestre là, depuis les débuts. Puis. Moi, en fait, dans le groupe, on est tous des gens différents qui arrivent d'horizons aussi très différents. Certains, on essaie de pas trop parler de qui on est parce que le travail collectif vient avec. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'anonymat dans le travail collectif pour permettre, en fait, à garder les choses collectives. Sinon, quand les rôles se définissent trop clairement, c'est un peu comme définir trop les disciplines aussi artistiques. On parle, nous, beaucoup d'indisciplines. C'est l'idée de pas, que ce soit pas un moteur, en fait, le travail disciplinaire. C'est, on a des idées et on les réalise. Puis après ça, on constate où ça va, si on a besoin de les mettre à quelque part. Puis, donc, on joue souvent autant dans des endroits qui font la diffusion en musique, que de la diffusion en théâtre ou en performance ou en art visuel. Puis au niveau des gens, ben on est tous metteurs en scène, tous directeurs artistiques, tous musiciens, tous performeurs. Après ça, derrière tout ça, il y a des enjeux, il y a des gens qui sont différents, qui ont des habiletés différentes, mais on est vraiment appelés dans notre travail à gommer ces différences-là d'une certaine façon, puis même à demander à quelqu'un qui est pas le meilleur. Tu sais, souvent, il y en a un qui joue beaucoup mieux la guitare que les autres, vous avez sûrement remarqué dans le spectacle, mais souvent, pour une pièce, donnons la guitare à quelqu'un d'autre, puis faisons que cette personne-là va faire d'autres choses. Et là, ça crée, il y a toutes des tensions, puis des couleurs qui apparaissent, en fait, dans ce travail-là.
C'est punk, ça.
Ouais, un peu.
Un peu. Oui, puis ça contourne aussi le spectaculaire, le besoin d'étiquette, le besoin d'image, le besoin d'avoir des icônes, d'avoir des symboles. Alors, on contourne tout ça en même temps en essayant de, justement, un peu à l'intérieur de la boîte noire, nous, on connaît nos différentes contributions, mais même, je dirais même à l'interne, quand on est en travail collectif sur une création, il y a des grosses idées. Et il y a des petites idées, puis on ne sait pas toujours de la petite idée ou de la grosse idée, celle qui va avoir l'impact final, par exemple, celle qui va vraiment faire que ça crée une différence. Alors, même l'appartenance des idées devient un peu floue à un moment donné, parce que si on arrive à faire ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a eu toutes ces contributions dont parfois on se rappelle d'où elles viennent et dont parfois on ne s'en souvient pas. Où est-ce que ça a été des accidents? Où est-ce que ça a été des hasards? Et des fois, on perd complètement la trace de la filiation d'un projet. Ça a commencé quelque part avec une intention de certaines personnes et ensuite ça a été sali, ça a été contaminé par des intentions de d'autres et en bout de ligne, on se retrouve avec quelque chose qui fait l'unanimité, mais dont on a perdu un petit peu l'historique.
Oui, une forme de, d'impureté peut-être.
Mais collectif. Alors, ouais. Il n'y a pas d'ego et justement, positif. Vous avez une superbe présence. On a vu hier le spectacle. On est encore scotché. Moi, j'en ai rêvé cette nuit d'ailleurs.
Très bien.
Alors, j'ai écouté et vu.
C'est très bien. Je vous remercie. Donc, Simon, de comment dire, de corriger le tir, puisque l'émission se propose généralement de brosser le portrait des invités. C'est très très bien. J'accepte tout à fait la chose. Alors, peut-être ce qu'on pourrait essayer de faire tout de même, c'est j'aime bien un peu de date, un peu d'histoire, un peu de géographie. Donc, je crois que les auditeurs l'auront entendu à votre accent. Je l'avais annoncé en fin d'émission de Panorama Hebdo, là, sur les coups de 13h59, quand ils m'ont passé l'antenne. J'ai annoncé que c'était des Québécois qui venaient. Pourriez-vous, avec quelques dates et puis quelques lieux, indiquer votre parcours, à défaut de parler de vous-même personnellement? Vous êtes, par exemple, alors, ça zut, ça va vous évoquer peut-être vous êtes tous deux natifs de Québec même, ou bien Montréal, ou bien Sherbrooke, ou bien Gatineau. D'où venez-vous donc?
Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Baie-Saint-Paul, mais j'ai vécu longtemps à Québec, là, et on s'est tous rencontrés à Québec.
À l'intérieur, dans les remparts?
Non. On n'habite plus dans les remparts.
Ah, plus personne. Je connais des gens qui ont habité sur la rue Saint-Nicolas, qui est juste à côté de la rue Saint-Jean, en face d'Archambault, pas trop loin. Donc, et vous, Gabrielle?
Moi, je suis de Québec.
De Québec,
oui,
même.
C'est pas original. Toute ma vie, comme québécoise. Ouais. On s'est rencontrés tous à Québec, mais donc tout le monde, on vient plus ou moins de la région de Québec. Bon, Simon a dit qu'il venait de Baie-Saint-Paul, qui est dans Charlevoix, puis il y a Jasmin qui provient de la Beauce, et Dania qui, elle, vient de Portneuf. Alors, c'est des régions qui sont vraiment autour de la région de la capitale, qui est Québec. Mais maintenant, on voyage aussi pour travailler ailleurs. Donc, Simon est à Montréal maintenant. On travaille avec un type qui s'appelle Frédéric Auger, qui travaille avec nous pour les conceptions sonores, etc. Lui est à Montréal aussi. Notre agent est à Montréal. Donc, entre Québec et Montréal, on est chez nous.
Mais alors, plutôt donc dans ce Canada, dans le Québec, dans ce Canada francophone, pas trop... j'avais entendu parler d'un prix qui vous aurait été remis à Toronto, mais ça a été seulement une escapade comme ça, par Robert Lepage.
Oui, bien en fait, oui, on était passé, on est passé jouer à Toronto à quelques reprises, puis... c'est un peu étrange, en fait.
Oui, c'est étrange que ça soit Toronto, mais c'est l'historique de tout ça, c'est que ça part d'un prix qui a été remis à Robert Lepage, qui est un artiste qui a fait valoir énormément l'importance culturelle de la ville de Québec. Lui-même vient de Québec et il s'est installé à Québec pour faire son travail artistique. Et il le défend sur toutes les tribunes. Et en fait, c'est l'Institut Glenn Gould, qui, lui, est basé à Toronto, qui a choisi de primer Robert Lepage pour l'ensemble de son œuvre. Et le prix, qui est un prix très prestigieux, vient avec l'opportunité de nommer un protégé. Donc, un artiste de n'importe quel horizon dont on croit qu'il peut avoir une approche porteuse dans l'art et la culture. Et on a eu la chance, justement, d'avoir été choisi par Robert Lepage. Donc, c'est à cause de, encore une fois, Robert Lepage qui, je crois, insiste sur Québec, que peut-être il a pensé à nous qui sommes de Québec et qui faisons notre boulot artistique à Québec. Donc, c'est pour ça qu'on... Mais ça a été remis à Toronto parce que l'Institut Glenn Gould est à Toronto.
C'était quand, ce prix? En 2012, je crois, ou même plus récent encore?
Et en fait, je crois que c'était l'édition 2013 des prix Glenn Gould par lesquels on a été primé, mais ça a été remis dans une soirée qui s'est tenue en mars 2014. Donc, c'est quand même assez récent.
Parce que voilà, ce que je souhaitais essayer de retracer, c'est donc le début de cet orchestre d'hommes orchestres. Est-ce qu'il y a une date de naissance, ou en fait, ça s'est fait plus ou moins sur quelques années?
C'est sûr qu'on peut comme... On se dit 2002, nous autres, mais en même temps, c'est un long processus qui... En fait, on a fait un spectacle ensemble dans des bars qui étaient à partir du répertoire de Tom Waits. On a travaillé sur ce spectacle-là, puis finalement, on le refaisait toujours sans arrêt parce que les gens le redemandaient. Puis là, on le retravaillait, mais il n'y avait pas d'intention de former un groupe, un collectif. Puis on a fait ça peut-être pendant 6 ans, je crois, puis en faisant d'autres choses à côté, puis en revenant toujours avec cette chose-là. Puis là, à un moment donné, il y a eu une proposition au travers... probablement par les fêtes du 400e, il y a eu
de la
ville de Québec. Donc, il y a eu, on a reçu des propositions de monter des spectacles de rue. Fait qu'on s'est mis à travailler ensemble de façon plus intense. Puis à partir de ce moment-là, on est rentré sur un cycle de 2 productions par année. puis ça l'a chauffé, ouais, ça l'a chauffé pas mal. puis il y a un nom d'orchestre qui est apparu au tout début. Au début, c'était le One Man Band Band. Puis on a, c'était pour rire dans des bars. Et là, on l'a changé en français. Et ça nous est resté. Puis là, on a fini par réfléchir un peu à ce titre-là qui est arrivé. Tout est inconscient. Hein. C'est pas, il y avait jamais une sorte d'intention de dire, ah, nous, on se réunit, on se choisit. Tous les gens se sont rencontrés un peu par hasard. Et finalement, cet orchestre d'hommes orchestres-là, c'est un peu devenu une réflexion sur l'idée de tout faire en même temps, qu'il n'y ait pas de hiérarchisation, qu'il y ait l'idée de pas avoir un savoir-faire très spécialisé. Finalement, le savoir-faire est de faire plusieurs choses en même temps. Puis même, c'est pas juste artistique, c'est aussi dans la gestion. Donc, on fonctionne beaucoup en autogestion. Et donc là, c'est une sorte de grande plateforme très horizontale qui s'est peu à peu dessinée. Puis probablement que nous, par la fréquentation, c'est-à-dire, c'était pas un processus intellectuel, mais par la fréquentation, on a fini par s'influencer, puis à devenir des gens qui se ressemblent dans ce projet-là, mais qui se ressemblent dans de la bonne façon, c'est-à-dire qui se sont influencés, puis qui se sont partagés toute une culture, puis fait que ça fait 12 ans aujourd'hui, on est rendu à notre peut-être, je sais pas, 8e, 10e production. Même nos productions, on les compte pas. On sait même pas, ça, c'était-tu une production? Est-ce qu'on l'a terminé ou ça s'est pas terminé? C'est tout est très organique, là, c'est ça.
On le sait bien, j'ai rappelé en début d'émission, quand on aime, on ne compte pas. Gérald et moi, on ne sait même pas combien d'émissions nous avons faites sur Radio Canu. Est-ce que nous pourrions peut-être faire une pause? On parle de l'orchestre d'hommes orchestres. Heureusement que Gabriel est tout de même là. Il y a une présence féminine. Et d'ailleurs, nous allons écouter les filles de Bordeaux. C'est toujours une des chansons reprises dans ce spectacle. C'est toujours une version, ce que nous allons écouter, qui est plutôt un enregistrement, un CD. C'est quoi, Gérald? Tu l'as sous les yeux?
C'est chanté par Uta Lemper, qui chante les chansons de Kurt Weill avec John Mauseri. Je ne sais pas si on dit comme ça.
Et le texte?
Gloria Sinfonietta de Berlin.
Et le texte est un...
Alors le texte doit être...
Ce n'est pas Robert Desnos, ça, c'est plutôt la complainte de Fantomas.
Deval. Je pense. Moi, c'est Jean regarder.
Bon, on cherche ça et nous écoutons ces filles de Bordeaux.
Fendu le crâne en deux à cause de la douane. Dans son petit fourneau, il a grillé la couane devant Capistrano sur la mer aux et jusqu'au fond de l'eau.
Gérald, c'était donc bien le texte, disais-tu, de Jacques...
Oui, d'une pièce de commande pour des raisons financières, écrite par Jacques Desval, mis en musique par Kurt Weill et composée en 1934 avant que Weill... C'est la dernière pièce écrite en Europe avant qu'il fuit le régime nazi.
Alors, si l'on compte, hein, je crois, on pourrait trouver que c'est la neuvième piste du concert, ou peut-être la douzième ou la treizième, je ne sais pas, parce qu'il y a une sorte de playlist qui existe, mais ce qu'il faut plutôt faire, et comment dire, pour ce spectacle, c'est le voir. À défaut de le voir, là, nous allons entendre Simon et Gabriel en parler. Donc, par exemple, cette version des filles de Bordeaux, vous, ce que vous faites sur scène, ça ne ressemble pas vraiment, je crois, à ce qu'on a pu entendre de Ute Lemper avec John Mosseri. C'est quoi? Il y a presque une mise en scène également sur ce titre, puisque deux chanteuses sont Gabriel et votre partenaire, vous êtes au micro. Et j'ai entendu parler d'une équipe de torture qui arrive. C'est ça, Simon?
Le vibrato, une pratique l'art du vibrato.
En fait, il faut peut-être reculer un peu à pourquoi est-ce qu'on a choisi Kurt Weill avant d'en venir peut-être à cette chanson-là qui est une perle dans un collier qui est assez bigarré. Mais bon, c'est ça, on en parlait. C'est la dernière pièce, celle-ci, que Kurt Weill a écrite en Europe avant de quitter l'Europe. Donc, Kurt Weill, c'est 1900 à 1950. C'est les deux guerres. C'est l'Allemagne nazie. Lui-même, étant juif, a dû quitter. Il se réfugie un peu en France. Il avait écrit beaucoup de musique déjà en Allemagne, mais il est, même au moment où est-ce qu'il était chez lui en train de faire ce qu'il aimait faire dans la vie, un peu à cheval entre deux approches de la musique. Une approche qui est plus intellectuelle, plus classique, plus académique, une approche plus populaire. Et d'un côté comme de l'autre, il avait des détracteurs. En fait, tout le monde lui disait, t'es pas dans notre équipe, ce que tu fais, c'est pas assez, ça colle pas assez à l'esthétique qui est acceptée. Donc il était déjà, lui, en train de faire des choix. Il a travaillé avec des gens qui remettaient beaucoup de choses en question, entre autres Bertolt Brecht, sur ses œuvres les plus connues. Donc c'est des gens qui vivaient dans un univers quand même très violent, très dur, très anxiogène, c'est le mot, et qui en fait cherchait un peu des façons de s'en sortir ou juste d'en parler, et à force d'essayer d'en parler dans les pièces les plus connues de leur collaboration, par exemple l'opéra de Katsu, la thématique qui est là, c'est que il y a rien à faire, en fait, quand on laisse l'humanité à elle-même, l'humanité fait des horreurs. Mais oui. Donc c'est son approche musicale, les thématiques qu'il explore, c'est celle-là. Ensuite, il est pas le bienvenu ni chez les classiques ni chez les populaires. Il est pas le bienvenu en Allemagne parce qu'il est juif. Il a à tout fuir ceux qui sont chez lui, en fait, puis à se réinventer tout le temps et à faire des choix. Et le choix qu'il a dû faire, c'est celui de s'exiler, de partir et de prendre des commandes, de faire du travail pour survivre. Et donc, à la fois, c'est un grand, grand compositeur, un grand mélodiste, un grand arrangeur, c'est-à-dire que les harmonies, les progressions harmoniques dans son travail d'écriture musicale sont extrêmement riches, et on les lui reconnaît.
Très complexe. Des dissonances, un peu à la Shostakovich parfois.
Voilà,
on s'attend toujours à un truc, on est surpris parce que la note à laquelle on s'attendait n'est jamais celle qu'on croyait.
On la contourne toujours. Voilà. On l'évoque, on la contourne, on ne s'assoit pas dessus.
C'est grinçante parfois.
Il est toujours dans une ambiguïté tonale, voilà. Aussi.
Ouais,
souvent, il y a des techniques de bitonalité. Puis en fait, il met tout dans du travail de chansons très populaires, avec des airs très qui pourraient être. Puis d'ailleurs, des gens le font. Ils reprennent du Kurt Weill, puis ils mettent des accords très normaux. Et
voilà.
On fait, nous, on n'est pas sûr. Puis
on perd l'essence, quoi.
Ben oui, c'est ça.
L'angoisse, le côté malsain.
Le croquant. Le
Berlin des années 30 du cabaret malsain,
enfin,
ambigu, loufoque, transgenre même, je dirais.
Donc, il savait très bien faire tout ça. Il avait tous les outils, puis il a choisi de mélanger ça avec une esthétique un peu plus populaire, probablement par souci de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Les valeurs qu'il avait, au fond, on ne peut pas les deviner. C'était peut-être seulement pour avoir un certain succès, un certain pouvoir de pénétration dans une plus grande population, mais en même temps, peut-être aussi que c'est un choix juste démocratique, de dire j'aimerais que l'œuvre que moi je fais, elle puisse parler au plus de gens possible. Donc, on prend Kurt Weill, on on a ce parcours à travers l'Allemagne, la France, les deux guerres, et on finit à Broadway, dans le New York des comédies musicales, avec une approche de l'art commercial très différente de ce qu'il avait pu quitter. Mmh. Et là, on se retrouve avec donc une œuvre assez grande, et on a des thématiques fortes, celle d'une humanité qui se tire dans le pied à tout bout de champ, et une musique aussi très variée. On a à la fois le grinçant du cabaret du début des années 20-30, puis on a le Broadway des années 50. Donc, c'est très vaste. Et donc, avec tout ça, nous, on avait la table qui était mise pour un spectacle très haut en couleur, et c'est à ça qu'on s'est intéressé, en fait. On sortait, comme Simon l'a dit, du travail sur Tom Waits, qui était très rock'n'roll, très romantique, très Amérique, quoi, États-Unis, etc. Et là, on tombait dans quelque chose de beaucoup plus noir, et c'est ce qu'on a voulu explorer dans le spectacle. Ça nous amène à peut-être parler des filles de Bordeaux, ou je te passe la parole.
Puis oui. En fait, on écoutait beaucoup, on était plus intéressés par les vieux enregistrements, puis donc des choses plus fidèles à l'écriture de Kurt Weill, moins travaillées. Puis il y a une réflexion qui est venue souvent, c'est en fait, on se disait, bon, les trémolos, tout ce qu'on entend, est-ce que ça vient de l'enregistrement ou ça vient vraiment de l'écriture? Puis il y avait comme, puisqu'il y a toute une ambiguïté qui vient avec ça, parce que les enregistrements d'époque, ils vont compresser le son, tout est plus mide. Mmh. Au milieu. Après ça, il y a des vibrations qui... Il y a aussi des techniques vocales de l'époque, mais on ne le savait pas trop, puis on s'est dit, ça pourrait être quelque chose à explorer, trouver des façons, c'est-à-dire de pas y aller nécessairement techniquement par la voix, mais trouver des façons de provoquer ce trémolo-là. Puis ça a donné donc deux choses. Lors des Filles de Bordeaux qui est chanté, c'est donc un homme, moi, je prends les deux chanteuses qui chantent en harmonie, en duo, puis en fait, je les étrangle, sans les étrangler. En fait, mais je fais un trémolo sur leur gorge. L'image, c'est l'image d'un étranglement, mais moi, c'est très technique. J'essaie d'être rythmique aussi dans le trémolo. Puis, en fait, je joue de la musique, là. On travaille ensemble, là. On respire ensemble, on fait tout ça. Puis, une autre image, c'est une sorte de machine, une chaise berçante reliée.
Avec une singère.
Oui, c'est ça, à un pédalier de machine à coudre et tout ça. Et donc, la chanteuse se tient debout très rigide. Et quand on pédale, en pédalant, la chaise.
Vibre de manière très rapide. C'est ce qui fait le trémolo de la voix, parce que tout le corps de la danseuse ici présente, c'est Gabriel qui est secoué de haut en bas, et on voit le tissu de sa robe qui c'est génial, parce que en plus il y a de la dérision et de l'humour, et c'est pas que noir, quoi. Et on se marre beaucoup pendant le spectacle, et en même temps on est touché.
C'est une autre chanson, ça. Est-ce que c'est bien la Den Wie Man Sich Betet?
Oui, c'est l'autre qu'on a écouté en début de.
Voilà. Alors la version années 30, justement avec les sons anciens, vieux enregistrements en disque de cire. Là. Sont émouvants aussi.
Je vous remercie, Gabriel, d'être effectivement revenu en arrière. Pourquoi, Kurt Weill, quel était ce choix? Et même, peut-être revenons encore plus en arrière, comment être passé de Tom Waits à Kurt Weill? Moi, je pensais bêtement, c'est peut-être le.
Des points communs.
L'initial, le W pour Waits et Weill, mais je crois que ça n'a absolument rien à voir. C'est très, très bête. Alors, auriez-vous y a-t-il une raison plus précise ou c'est.
Je pense que c'est un intérêt pour. En fait, il y avait un nouveau show qu'il fallait avancer et il y avait un intérêt pour ça, mais c'est sûr que ça.
Weill, qui l'a découvert? C'est l'un de vous, et puis alors, Anonymat oblige, on ne va pas le nommer ou disons.
Tout le monde le connaissait un peu, c'est pas. Mais c'est vrai que des gens sont arrivés avec cette proposition-là, mais je répondrais plus par l'autre côté en disant qu'est-ce que ça apportait par rapport à Waits d'aller par là. Puis c'est vrai qu'avec le spectacle à Tom Waits, on était beaucoup on parlait beaucoup on parlait d'hommage. En fait, nous, on n'aime pas cette idée-là de tribute ou d'hommage. On n'a jamais avancé comme ça. Il n'y avait pas l'idée d'incarner Tom Waits, de le représenter sur scène et tout ça, mais quand même, étant donné que c'était une figure pop, ben on revient souvent, tu sais, il y avait un peu cette intention-là qui était caguée sur nous, puis nous, ça, on approchait ça comme un texte de Shakespeare, là, c'est pour nous, c'est égal, tu sais. Puis, donc là, avec le Kurt Weill, avoir un matériel qui est d'un compositeur qui ne performe pas ses pièces, là, tout d'un coup, ça changeait tout. On n'a rien changé, nous, dans notre façon de travailler, mais tout le regard changeait, puis on trouvait ça intéressant, en tout cas, pour déjouer un peu les attentes, puis ouais, c'est ça, déjouer un peu cette chose-là.
Il y a des survivances de Tom Waits dans ce cabaret. Alors, j'ai trouvé plusieurs noms. Cabaret Brise-Jour est le nom du théâtre de la Croix-Rousse. Et puis vous-même, je crois que vous le nommez le cabaret Courtevail, où je crois qu'il y a encore un autre terme, il me semble.
Enfin, on l'appelle le cabaret Brise-Jour.
Cabaret Brise-Jour, sur le site, il m'avait semblé voir une autre appellation. Enfin bref, en tout cas, il était bien question de Paris, Berlin et Broadway, le parcours que vous évoquiez tout à l'heure, Gabriel. Donc oui, il y a des survivances de Tom Waits dans ce cabaret Brise-Jour.
Notamment, qui est péchu parfois.
Pour ce qui est de la voix, puisque vous.
Claire Grosse Caisse, Simon. La voix, évidemment.
Vous interprétez un titre de Courtevail.
Deux qui sont bien, bien, bien rock.
Avec une voix, donc on se disait, est-ce une voix qui tient du whisky et puis de la cigarette? Et en fait, non, Gabriel nous disait que Simon mène une vie religieuse et monacale. Je vous en prie. Donc, peut-être pour évoquer un autre titre, voilà, moi je vous lance là-dessus, mais sur éventuellement autre chose. Puis ensuite, nous ferons une pause pour écouter Gérald dans quelques instants.
C'est un œuf. Martyr, qui arrive dans le spectacle. Il faut dire quand même qu'il y a 17 chansons plus un entracte. On pourrait peut-être questionner nos invités sur le choix et le rythme, parce que c'est très rythmé, c'est très intéressant, parce qu'on passe de morceaux très violents, très rapides. Il y a des pauses. Enfin, au niveau rythmique, c'est un spectacle vraiment ciselé.
Il y a tellement de choses à évoquer également.
Ciselé.
Les instruments aussi. Mais alors, le rythme plutôt, oui. Il y a une écriture
Pour la voix, tout ça, c'est sûr que, tu sais, on y a des explorations qu'on a faites dans le Tom Waits, qu'on a voulu garder une intensité, en tout cas, ça, c'est certain. Fait qu'il y a peut-être là qu'il y a des projets où la voix reste. Puis en même temps, il y a toute l'époque Broadway qu'on voulait approcher aussi. Puis qu'on était peut-être moins.
Attiré
par cette écriture-là qui était plus mielleuse un peu, c'est plus arrangé, c'est plus... En tout cas, moi, ça me plaît moins. Puis donc, on a pris certaines pièces de la période Broadway, et là où lui-même s'est beaucoup influencé du blues puis de la culture américaine, mais c'était de refaire une écriture un peu plus actuelle, puis nous, à travers l'approche de Tom Waits, tout ça, un son saturé, lourd, pesant, et des gammes blues qui dans une approche... Je pense qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à... Il y a quelque part où il ne pouvait pas aller, lui, dans sa culture et son époque, loin de Courtevail, c'est ça. Puis là, on s'est dit, on va y aller. Nous, on va... Fait qu'il y a une pièce qui est plus hip-hop, tu sais. Puis il y a une pièce qui est plus rhythm and blues. Puis je crois que c'est fidèle quand même. Il reste des traces de l'harmonie. Puis en même temps, plein d'autres choses disparaissent. Puis
en même temps, moi, j'ajouterais à ça que lui-même, Courtevail, faisait une écriture avec, comme disait Simon, il pigeait dans des éléments de vocabulaire musical qui étaient plus... populaire à son époque, mais il est mort en 1950, donc il y a 60 ans qui ont passé, et en 60 ans, la musique a aussi continué d'évoluer et la culture populaire a continué d'apporter des nouveaux éléments. Alors nous, ben, pourquoi est-ce qu'on se priverait de ces 60 dernières années pour se dire on veut interpréter Courtevail, on va s'arrêter en 1950? Alors pas du tout. Surtout que lui-même, dans son approche, c'était aller rejoindre les gens avec les sons de leur vie, les sons de leur environnement, les sons qui leur sont familiers. C'est comme ça qu'on va accrocher les gens, qu'on les intéresse. Alors ben, c'est pour ça que nous, on s'est pas du tout privé. On n'en a pas fait non plus une règle. On n'a pas beaucoup de règles, en fait. Mais on s'est pas privé d'aller chercher des références à des musiques populaires d'aujourd'hui, en fait.
La deuxième, je pensais, par exemple, un petit côté hip-hop dans le flow et la diction, Tour, c'est ça?
Tour est très rock, mais Big Mole est extrêmement hip-hop. Ouais.
Donc, la voix à la Tom Waits, ce n'est pas, je m'étais laissé dire pourtant cela, ce n'est pas le fait de boire pur du sirop d'érable, ce n'est pas du tout, absolument rien à voir. Écoutons Martyr, donc de toujours Courtevail.
Je pensais du Requiem berlinois de 1928.
Je vais quand même...
8 minutes 55 par Philippe Hervé.
Bon, on coupera. Je pensais tout de même, je vais le placer tout de suite, c'est un peu comme... L'orchestre d'homme orchestre ressemblerait peut-être un peu à Fight Club. Je crois que la première rule de Fight Club, le dit Brad Pitt, c'est « There is no rule ». Il y a pas de règle, c'est la première règle. Donc écoutons Martyr, et puis nous continuons toujours sur radiocanu.org si vous nous écoutez sur Internet, ou bien le 102.2 de la bande FM pour Lyon. Je perds la mémoire, je ne sais plus comment ce Martyrle était interprété hier. C'était quel effet? C'était la...
Ça.
C'était avec...
Oublié. Moi, je m'en rappelle.
Ah, bon, c'est bien.
Bravo, Gabriel. Alors, rafraîchissez notre mémoire.
C'est riche,
exposer aux auditeurs, c'est donc quelle mise en scène, ou bien quel instrument, ou bien quelle ligne est adoptée pour ce moment, pour cette chanson?
Il y a un aiguise-violon. Moi, je joue de l'aiguise-violon. C'est une espèce de petit cercueil ou boîte de violon avec un aiguise-crayon dessus, puis l'archet qui se fait ronger tranquillement, puis donc
qui tend les fils. Là, on se demande si ça va céder, si ça va mettre en branle une autre machine de l'autre côté. Pas encore, non. C'est la surprise. C'est bourré de surprises.
Un instrument qui porte un nom,
l'aiguise-violon.
L'aiguise-violon, parce que voilà, c'est ce que nous.
Et aussi l'harmonico, le spectacle commence très fort. Un beau mot valise, très poésie, qui est révélateur de la poésie de ce spectacle aussi, généralisé. C'est l'harmonico, est-ce qu'on peut raconter?
Bien sûr.
Donc ça commence comme ça.
C'est l'image.
Les joueurs d'harmonica se précipitent au cou de belles femmes pour leur jouer de l'harmonica dans le cou, en fait. Et moi, j'ai essayé de m'imaginer à la place, justement, des femmes, du souffle qu'elles devaient ressentir sur le cou. Ça doit faire la chatouille, non?
Bien sûr. On me dit que c'est très agréable.
C'est ça, l'harmonica lui-même est un super bijou à porter au cou. C'est très beau, c'est élégant. Et ben, après, quand il y a une harmonie Quist. Alors, quand l'harmonie quist s'approche et effectivement s'exécute, ben il n'y a pas besoin de jouer à trouver ça extraordinaire, parce que ça le fait tout seul. C'est un petit massage, c'est extraordinaire.
On a été surpris de remarquer que c'était pas rendu encore ici. Nous, à Montréal, tout le monde, les femmes portent des harmonicous dans les rues.
Vous nous niaisez.
Non, mais vous allez maintenant être les ambassadeurs de la culture québécoise. Peut-être que vous allez lancer une nouvelle mode.
Oui.
Ça ne m'étonnerait pas que ça soit repris, ça.
Oui, ben d'ailleurs, on a souvent des discussions sur quels produits dérivés on pourrait vendre à la fin des spectacles. Donc, l'harmonico pourrait être un super produit dérivé, en fait.
Et puis, la planche à pied?
Non, la roue à pied.
La roue à pied aussi, oui. Mais il ne faut pas trop révéler de choses.
Pour
les auditeurs qui se rendraient au spectacle, c'est quand déjà?
Comment décrire la chose? Encore ce soir, mercredi et demain, jeudi à 20h. Ce qui est intéressant pour ce soir, c'est qu'il y a un bord de scène. Et le bord de scène est une pratique du théâtre de la Croix-Rousse qui permet, une fois le spectacle achevé, de bavarder, de converser avec les artistes. Ça peut être très intéressant, un bâton rompu.
Allez-y, il faut réveiller cette salle de la Croix-Rousse, parce qu'on a des fous sur scène et... J'ai trouvé que le public hier était quand même un peu mou, un peu terne par rapport à la qualité du spectacle.
Ouais, mais alors là, Gérald, tu nous prêtes à l'émission spectaculaire un sacré... Est-ce que nous allons pouvoir réveiller la ville de Lyon et faire que tout le monde se rue ce soir? L'émission est enregistrée, l'émission est rediffusée ensuite, enfin, l'émission est disponible sur le site, sur le blog de Spectaculaire. Peut-être que vous pourriez la reprendre, parce qu'il n'y a absolument aucun droit, elle peut se traîner sur tous les Facebook de la Terre. Même si Gérald et moi n'avons pas de compte, même si nous ne cautionnons pas trop la chose, nous la permettons tout à fait, nous la tolérons. Est-ce que nous pourrions évoquer d'autres chansons, peut-être un peu plus en détail, ou disons pas forcément en détail, mais révéler quelques des choses, des influences, Gérald. Tu parlais d'influences,
parce que moi j'ai vu défiler, c'est la même période que Weill, ça fait un peu après peut-être, je pensais à Satie qui avait composé une symphonie avec machine à écrire, il y en a une dans le spectacle, qui est revisitée et réutilisée de manière tout à fait
avec des gants,
passionnante, avec des gants expérimentales, acrobatiques, très drôle. Et puis on pense à toutes les machines, la musique futuriste, toute cette musique expérimentale, de lutte expérimentale. D'ailleurs, il y a un site excellent, j'en profite pour parler aux auditeurs, qui s'appelle Les Chercheurs de Son, un site absolument génial sur Internet, qui est consacré uniquement à toutes les musiques expérimentales. Ça va de Roussolo, la musique futuriste, à Pierre Bastien, qui fait des machines musicales. Et je pense qu'il y aura bientôt aussi l'homme d'orchestre. S'ils n'ont pas encore, je vous conseille vraiment de mettre votre vidéo dessus, parce que ça brasse toute la lutte expérimentale dans le monde, de tous les chercheurs de son. Et avec des tuyaux, il y a une machine fabuleuse qu'on croit être un lustre. Au début, faut pas trop que j'en dise. Ouais. Au début, on se demande, il y a une grande suspension. On se dit, il est superbe ce lustre. Et puis on s'aperçoit, après l'entracte, à la deuxième partie du spectacle, que c'était encore un instrument de musique magnifique avec des flûtes précalées sur des notes. Et ça joue merveilleusement et respecte les harmonies complexes de Courtois. Et puis au début, il joue à 1, 2, 3 et 4 même. Orgue à musique à 4, quoi. Enfin non, c'est vraiment très bien.
À propos de site, deux petites remarques. Le site de l'orchestre d'Hommes Orchestre, lodo.com, est très riche. Il y a des vidéos. Alors les vidéos, bien entendu, elles donnent une idée. Mais là, pour le coup, pour ce qui est de ce spectacle, le cabaret Brise-Jour, eh bien... c'est pas la même chose que ce qu'on peut voir sur scène. Donc justement, intérêt, voyez donc ces vidéos si vous le souhaitez, mais le spectacle sera différent. Donc il y a plusieurs vidéos, on peut également écouter des choses. Et puis alors, à propos de site, il faut tout de même évoquer ce site enfin comment dire, sur scène,
déjà,
je
ne
sais pas comment nommer ça,
c'est
un salon, c'est quoi, c'est une brocante, c'est quel...
Ben, en fait, c'est l'ensemble des instruments de musique qu'on joue, qu'il faut bien organiser d'une certaine manière. Il faut qu'il se retrouve sur scène. Et là, on a donné... on a essayé de créer un salon au départ. L'idée d'un salon après-guerre, un peu déconstruit...
Après un bombardement,
éclaté,
peut-être.
Après un bombardement, avec le piano qui est éventré,
ah oui, très bon.
Avec, etc., etc. Et bon, on est allé plus du côté du salon. Puis ensuite, on s'est dit, ah non, c'est trop situationnel. Ça nous plaît pas, ça donne trop de pistes. On est revenu à une espèce de bordel de matériel. Puis le bordel de matériel n'était pas nécessairement une meilleure solution. Donc, on est revenu tranquillement à réorganiser le salon. On a mis une petite étagère, un lustre. Mais c'est moins comme une recherche de faire un salon, montrer un salon. C'est plus organiser en salon l'ensemble des instruments qu'on joue, des objets qu'on doit manipuler dans le spectacle.
Il faut que ce soit avant tout pratique et
oui,
que la mise en scène n'en pâtisse pas. Et au niveau rythmique, il n'y a aucun temps mort. C'est très, très, très dynamique. Et il y a un sacré nombre de... Ils sont 7 sur scène et pour gérer justement l'attribution, enfin la mise en scène quoi, de la musique.
Il y a quand même des lampes de chevet qui donnent bien un aspect salon et comme ouais, ça, je pense à cette chose.
De lumière aussi. Mm-hmm.
La semaine dernière, je crois qu'il était encore à Lyon, c'était il y a 2 semaines, Marc Labrèche était présent au Théâtre des Célestins pour un spectacle. Je vais vérifier ça à l'instant. Il me semble que c'était une reprise, une production de Robert Lepage. Je n'ai plus le titre en tête.
Les aiguilles et l'opium.
Voilà, bravo, exactement. Et Marc Labrèche, moi, le souvenir que j'en ai, j'ai pu me promener à Québec au début des années 2000 et il y avait une bonne émission La fin du monde est à 7h et il y avait toujours une rubrique qui était Passons au salon. Il était très ordurier, enfin justement il commençait très délicatement et ensuite une fois dans le salon il se mettait à être des plus orduriers, mange la marde et puis mets un envoyé, enfin du moins c'était assez coloré et très bien. Et donc enfin je reviens au salon avec ces lampes de chevet qui sont d'ailleurs régulièrement éteintes et puis rallumées. D'ailleurs le spectacle commence avec elle est allumée puis elle a nouveau éteinte et quand Jasmin prend la parole c'est pour dire pour terminer la soirée, je souhaite une dernière chanson. On pourrait l'évoquer.
Déjà, ça donne le ton.
Il y a une forme d'humour, voilà, c'est ça.
Ah bah oui, heureusement que c'est pas noir. Puis primant.
Oui, puis tout le travail. En fait, tout le travail de lumière. En fait, les lumières du théâtre sont opérées par les chaînettes des petites lumières de salon. Ça passe par un système là, informatique qui fait que finalement, il y a la régie, notre régisseur, c'est un des performeurs qui joue beaucoup les percussions.
Et en fait,
c'est
lui qui a fait le travail. Monsieur Robitaille?
Non, ça, c'est Philippe Lessard de Relais. Robitaille, lui, il n'est pas là. Il a conçu des instruments. Et donc, la lumière passe par. C'est les lampes. Quand on tire sur la lampe, la lampe allume et ferme ou ferme. Et les lumières du théâtre aussi se transforment, l'éclairage se transforme. Ouais, c'est ça.
Et des fois, avec le souffle aussi.
Avec
alors,
le son
à la dernière chanson magnifique.
C'est ça. Fait que donc, il y a souvent des micros là, de placés qui font que finalement la lumière réagit au son aussi. Fait que donc un bon coup de tambour peut aussi faire fluctuer les lumières du théâtre. Fait que des fois, il y a ça un peu qui
faut des apparences de bricolage, c'est aussi très sophistiqué tout ça en fait.
Ouais, celui-là, il est pas. Il est
ça
pas
se
mal,
voit.
Ouais. Il y a des choses très rudimentaires. Puis il y a des
voilà,
choses
c'est ce mélange qui est détonnant et qui est assez génial en fait.
Ah ben, une technique peut-être rudimentaire, c'est celle du bas de soie enfilé sur le visage. C'est les cambrioleurs, les gangsters donc, qui pratiquent cela. Vous le faites deux fois, me semble-t-il, Gabriel, c'est ça?
Oui,
c'est
dans ce cas-ci, il y a une petite récurrence, mais il y a plusieurs éléments qui évoquent en fait une sorte de disparition de l'identité. Le bas de soie, on s'efface soi-même, l'espèce de tas de linge, de vêtements qui recouvrent la chanteuse, le sac de plastique.
C'était génial. Avec un maillot, j'ai reconnu, j'ai cru que c'était les Bruins de Boston, et en fait, non, ce sont les Penguins.
Non, c'est les Bruins de Boston.
Ah, il m'a semblé à la vérification.
Non, c'est vraiment les Bruins de Boston.
Ah, mais c'est très bien.
Donc, c'est ça, il y a comme, on a joué aussi sur le fait de cacher les visages, en fait.
Ça peut rappeler l'univers aussi des opéras de Weil, le côté brigand, maquis et compagnie.
Voilà. Et en fait, les gestes qu'on fait n'ont pas nécessairement une fonction unique, consciente et souhaitée. C'est des gestes qui sont ouverts et qui sont mis en parallèle les uns à côté des autres. Donc, après, ça appartient un peu à chacun de faire les liens qu'il ou elle souhaite ou ressent ou en dialogue avec le propre vécu de chaque personne. Un même geste ne va pas évoquer les mêmes choses. Et pour nous, c'est important de garder garder ça comme ça, parce que si on fait un chemin un peu trop étroit dans le spectacle en disant venez passer par ici, tournez à gauche, ben après c'est moins riche, c'est moins ouvert, c'est moins évocateur, puis on trouve qu'on perd en poésie à ce moment-là.
C'est moins l'idée de dire quelque chose que de plutôt faire en sorte que ça dit quelque chose, tu sais. Puis c'est la différence, c'est que finalement d'un côté il y aurait un message à vouloir passer, puis nous disons il y a des idées qui arrivent, puis en les essayant, on découvre qu'est-ce qu'elles disent, puis après ça, on endosse ou pas. Tu sais, comme par exemple, ce tas-là, c'est une fille qui chante en enlevant du linge doucement, enfin un striptease, en fait.
Ça commence comme un vrai striptease et on est vite surpris par la tournure des événements.
Et là,
ça devient une performance.
Ça se revire de bord, finalement, la striptease, l'arroseur arrosé, là, la stripteaseuse se ramasse finalement ensevelie sous les vêtements qu'elle retirait qui abondent voilà, dans tous les sens. Et l'idée n'était pas là quand ce numéro-là a été conçu. On essayait. Il y avait l'idée de lancer des choses dans les airs. Il y avait toutes les influences. Puis, OK, on essayait avec les vêtements. Puis là, tout d'un coup, c'est arrivé. Puis c'est un peu étrange. Il y a de l'humour là-dedans. Puis en même temps, je comprends pas très bien la blague qu'on fait non plus. C'est un peu terrible. C'est un peu drôle. Après ça, continue à chanter, mais c'est un tas. C'est comme devenu un tas.
Un peu monstrueux.
C'est drôle, puis c'est étrange. Puis...
Un peu Elephant Man caché sous son tissu.
Moi,
j'ai pensé à une sculpture d'un artiste, Michelangelo Pistoletto, qui a fait une Vénus au chiffon, où on voit une Vénus planquée, très classique, planquée sous un tas énorme de tissus, qui s'appelle la Vénus au chiffon, mais on la voit plus, en fait.
C'est intéressant, ça, Simon, d'accepter que le sens du spectacle
soit
puisse vous échapper, voilà. Mais, et d'ailleurs, je me demandais, donc le spectacle est-il plus ou moins fini, ou alors c'est une sorte de work in progress? Et en fait, non, il n'y a pas forcément de forme achevée.
Tout est calé. Hein.
Mais il a été très longtemps en work in progress, mais là, ça ne bouge plus beaucoup, puis ça devient aussi très difficile de bouger des choses, parce qu'il y a toute une petite mécanique invisible qui est derrière tout ça, qui fait qu'il y a un rythme, donc qui fait que moi, j'ai terminé telle pièce, je marche, je passe à côté de Gabriel, je lui donne un micro sans fil qui apprend, puis là, on sait qu'à la régie, il sait que Gabriel va en avoir besoin pour l'autre pièce. Puis là, fait qu'il y a toute une petite mécanique qui fait que quand on change juste l'ordre des pièces, et ça devient vraiment très difficile, et même il y a des enjeux souvent qu'on le fait à quelques reprises, et c'est en spectacle qu'on fait, oh non, là, ça marche plus, on n'avait pas pensé à tel détail.
La conséquence de tel changement.
Ouais. Et ça passe tout à fait inaperçu. Hein.
Mais ça a été longtemps. Oui.
C'est ça a été longtemps un truc mou, souple, qu'on pouvait bouger encore dedans pas mal. Et puis, c'est peut-être propre aussi à notre façon de travailler. Comme on travaille à plusieurs, avec vraiment des contributions de chaque personne, on revendique de travailler sur longtemps. On peut pas se dire, on fait une nouvelle production pour l'année prochaine et dire à des théâtres, c'est bon, vous pouvez nous booker pour l'an prochain, on vous fait notre nouvelle production. C'est des trucs qui prennent vraiment leur temps pour arriver, pour se cristalliser dans une certaine forme qui va finir par nous apparaître à tous comme étant fini, comme étant terminé. Donc, ce spectacle-là, il a commencé peut-être sa route en 2006 et maintenant, 8 ans plus tard, on se dit, si on a du travail à faire, on va le faire sur un autre spectacle parce que celui-là, il est abouti. Il est achevé.
Ça serait changer pour changer.
Changer pour rien. Alors que tous les changements qui se sont opérés avant, on en ressentait la nécessité, en fait, pour parce qu'on n'était pas complètement... on sentait pas qu'on était arrivé là où on voulait aller. On avait encore envie de jouer dedans. Puis c'était pas sec. Donc, on pouvait encore bouger des trucs sans que ça soit assez difficile à bouger.
Puis pour dire, on est passé peut-être par l'interprétation de 50, 60 pièces de Cordeval, puis probablement que la plupart des pièces qui sont dans le show n'étaient pas dans la première mouture, mais finalement, c'est en jouant ces pièces-là, des idées scéniques viennent et les idées restent, mais les pièces passent, c'est drôle, puis des fois, une idée est venue avec une pièce, puis finalement, la pièce est tombée, mais là, l'idée revient sur l'autre, et là, le lien est moins clair, on perd le chemin, puis il y a quelque chose de poétique qui apparaît, puis nous-mêmes, on se déjoue, puis il y a quelque chose d'étrange là, dans le processus. Mais
on se déjoue, c'est beau
ça. Oui. Mais se déjouer soi-même, de débrancher de l'acte conscient et rationnel, de vouloir faire signifier les choses, puis d'être plus dans un... Ouais, une expérience.
C'est des processus de néo-dadaïstes, tout ça. En fait, le hasard, ça, vous êtes quand même anarchiste, autogéré, autogestionnaire, dadaïste.
Il était écrit que Radio Canuc reçoive un collectif également autogéré.
Ben voilà.
J'y pense, y a-t-il une part d'improvisation alors ou non, justement
vous avez répondu, mais. À l'intérieur.
C'est ça, c'est que le parcours, lui, il est très réglé. Comme disait Simon, la partition de ce spectacle-là, finalement, c'est une partition de gestes que chacun a à faire. Et ces gestes-là,
très techniques.
Des fois, c'est un geste musical, on joue la note sur l'instrument, et d'autres fois, c'est on se passe un micro et on met tel instrument ou tel objet à tel endroit pour que quelqu'un d'autre le récupère. Mmh. Alors, c'est sept ou huit partitions de gestes qui coexistent et qui avancent en même temps dans une direction. Donc, le spectacle n'est pas improvisé à ce chapitre-là. Là, c'est très fixé. Mais à l'intérieur des numéros, on sait comment les numéros vont se dérouler. Mais après, quand on lance des vêtements sur la tête de quelqu'un, on ne sait pas si le vêtement va rester ou s'il va tomber. Donc, il y a là une part d'improvisation. C'est pas de l'improvisation tant que ça, mais c'est plus une présence. Mmh. Une présence à dire... Qu'est-ce qui va se passer ici et maintenant? Et moi, je dois composer avec ça, je dois en faire quelque chose, je dois l'utiliser pour me rendre au bout de mon intention dans le numéro que je suis en train de performer. Donc, c'est pas vraiment de l'impro, mais c'est de la présence réactive.
Réactivité à fond.
Et c'est d'ailleurs d'une richesse visuelle parce que vous êtes sept sur scène, les sept font presque
perdu,
toujours
quoi,
quelque chose. Donc, on peut être attentif à chacun des sept, il y a toujours un truc à voir, un truc à...
Et d'ailleurs, à un moment, il y a une scène sur un morceau dans le déroulement avec des projections de visage. Alors, c'est sur Tchaïkovski, peut-être. J'imagine que ça commence avec un portrait de Tchaïkovski, peut-être, en photo. Et ça enchaîne avec plein de personnages.
Une vidéo post-vite. Qui sont nommés. C'est tous les composants nommés dans la pièce.
Une vidéo projetée au fond. Le temps file tout à fait. Je pense qu'on va écouter, puisqu'on parle de musique à voir, il y a quand même de la musique. Donc écoutons Pride ou bien Stolz, extrait des Sieben Todsünden, les sept péchés capitaux de Kurt Weill. Et puis ensuite, je crois qu'il nous restera 2-3 minutes pour. Il m'a semblé hier soir entendre Marc Langlois dire qu'il y avait déjà d'autres projets qui arrivaient, une sorte de fausse anthologie. On écoute un premier titre, enfin un ultime titre, et puis après nous entendrons les réponses de Simon et Gabriel.
Als wir aber ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweiten Stadt.
Le soufflet.
Alors,
le soufflet à la ceinture.
D'un avis, unanimement, je passe cette version de Stolz pour peut-être dire deux mots, oui, non, de ce projet à venir. Et puis après, on écoutera la complainte de Fantomas qui est en français. Ça peut s'évoquer ou non, peut-être pas encore forcément.
Oui, ben en fait, tout à l'heure, vous le disiez, vous auriez souhaité avoir la musique. Du spectacle avec vous en partant, vous procurer cette musique-là. Ben nous, on n'a pas fait de CD jamais parce que en fait, c'est vraiment une musique à voir, c'est une musique à expérimenter en direct ce qu'on fait. Alors, on souhaitait pas nécessairement en faire le disque du spectacle, on trouvait pas ça intéressant, mais on s'est quand même tranquillement pas vite assoupli, puis on s'est dit qu'une idée de faire un disque de musique qui se voit, qui s'écoute, mais pas comme le disque du spectacle, mais comme vraiment un disque qui plonge dans l'univers de l'Orchestre Dames Orchestres avec les 8 projets des dernières années, etc. L'approche avec les machines, l'approche avec la performance, l'approche avec les textures de son. Ben, on s'est dit qu'on allait travailler sur un projet audio qui puisse avoir le disque comme support, mais qui soit un projet à part entière. Donc, voilà, c'est ce qu'on prépare.
Et ça, c'est un spectacle aussi? Non, ce ne serait que...
C'est
qu'un CD.
C'est une œuvre audio.
D'accord.
Et c'est pas visuel, hein, il n'y aura pas de vidéo?
Non.
Parce que les spectacles sont tellement visuels qu'on pourrait aussi imaginer une mise en scène vidéographique.
Bah, un livret, donc il y aura un support livresque, plus qu'un support qui bouge.
Et alors, y a-t-il une date ou non? Justement, aucune date.
C'est automne automne 2015, même, fort probablement. Oui. Là,
c'est un travail d'archivage, de...
Et de composition,
de choix, de sélection.
Parce qu'en fait, on est tous... Il y a l'orchestre, l'homme d'orchestre, il y a les projets qu'on bouge, mais il y a tout... On fait tous... plein de choses à côté, dans d'autres compagnies qu'on a parties, et aussi à titre individuel.
Voilà, les escabeaux, c'est ça? C'est un ensemble, non?
D'escabeaux, oui, mais qui n'existe plus.
Qui mais il y en a d'autres qui existent.
Mais qui a fait plein de choses, puis qui a fait, dans lesquelles est apparu plein de compositions aussi que, là, qu'on réutilise et dans différents projets de l'orchestre ou pas. Fait que finalement, il y a comme une sorte de culture, finalement, qui... De plein de choses satellites aussi qui gravitent autour de nous. Puis j'ai l'impression que cet orchestre-là, c'est un peu tout ça. Puis on veut, comme dans ce disque-là, avec dans une orientation de composition, mettre ce travail-là qui a été fait en parallèle des travaux qu'on tourne plus.
La complainte de Fantomas, alors?
Chantée par Tonio Gemem.
Très bien, c'est... Moi, j'ai calé.
C'est la 10, je crois.
Est-ce bien ça? Alors, c'est bien, complète de Fantomas. Et puis ensuite, il sera temps de faire part d'une ultime doléance. Je crois que le temps est vraiment passé vite. Pascal ne va pas tarder à débarquer. Le Blues des Canuts commencera. Donc, on écoute la complète de Fantomas.
Ne ratez pas ce spectacle.
Bah, non, on aura encore peut-être allez, 30 secondes de mots. Mais tout d'abord, la complète de Fantomas.
Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom. Des tortures, des violences, toujours impunies, hélas, du criminel Fantomas. Lady Beltham, sa maîtresse, le vit tuer son mari, car il les avait surpris au milieu de leurs caresses. Il coula le paquebot Lancaster au fond des flots. Sans personne, il assassine mes jupes et des deux fendards, va lui faire subir son sort, enfin sur la guillotine. Mais un acteur très bien grimé, à sa place est exécuté. Un phare dans la tempête, croulent les pauvres bateaux, font naufrage au fond de l'eau. Mais surgissent quatre têtes, Lady Beltham aux yeux d'or, Fantomas, Juve et Fandor. Le monstre avait une fille aussi jolie qu'une fleur, la douce Hélène au grand cœur.
Et cette complainte dure encore 5 ou 6 minutes. Et hélas, il est temps tout de même de conclure. Nous sommes-nous tout dit? Non? Oui? Non? Non, non quand même, on pourrait prétendre que oui.
On ne se dit jamais tout.
Ah exactement. Qu'est-ce que c'est bon, on ne se dit jamais tout. Et ben, il va donc être temps d'entendre ces quelques notes. Et voilà, le générique de fin, c'est encore un collectif, Gérald. Oui, nous garderons ce générique de début d'émission et de fin d'émission, c'est Massive Attack avec Unfinished Sympathy.
Et le spectacle, alors, il est où et quand, à quelle heure?
Le spectacle est au Théâtre de la Croix-Rouge. J'en mange mes mots, le Théâtre de la Croix-Rouge, c'est à 20h. C'était hier à 20h, mardi 2 décembre. Ça, c'est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est encore ce soir, mercredi 3 décembre, avec Bord de Seine. Après, il y a tout d'abord un entracte et puis ensuite deuxième partie, donc sur le coup de 10h, Bord de Seine. Et puis demain soir, la dernière, jeudi 4 décembre à 20h. Toujours au Théâtre de la Croix-Rousse. Les réservations sont à faire en se rendant sur le site. Il y a un numéro de téléphone, est-ce que je l'ai sous les yeux? Non, j'ai des numéros de téléphone, mais ce sont ceux de Sonia et de Justine. Je ne vais peut-être pas donner leur numéro de téléphone, ce sont en plus leur ligne de bureau. Bref.
C'est un excellent moyen de commencer l'hiver et de lutter contre le froid.
D'aller à ce spectacle, puisque c'est ce que nous ont notamment... Non, ils ne nous l'ont pas forcément recommandé, mais nous y sommes déjà allés. Merci Gabriel, merci Simon.
Merci de votre accueil. Merci.
Et puis on vous souhaite une bonne continuation. Je crois que ce n'est pas encore la toute fin de votre tournée. Hein. Il y a encore quelques dates pour ceux qui ne pourraient pas aller au Théâtre de la Croix-Rousse. Il reste encore les colonnes à Saint-Médard-en-Jalles. Je ne connais pas cette salle.
C'est à côté de Bordeaux.
Ce sera le 6 décembre, et alors après, vous rentrez.
Voilà.
Dans le nouveau monde, et nous restons, Gérald, dans cet ancien monde. Bon, bah, très bien. Merci à tout le monde, restez à l'écoute de Radio Canut, des bandes continues, et puis de Pascal qui devrait arriver pour le Blues des Canuts. Et voilà. Ciao tout le monde, et salut et merci.
Salut.